Bonjour à tous. Nous nous retrouvons dans notre émission Le Temps des Jardins. Vous savez, c'est cette émission que vous retrouvez régulièrement et qui vous parle des parcs et qui est née d'un partenariat avec l'Institut européen des jardins et des paysages. Aujourd'hui, j'ai le grand bonheur de recevoir Madame Agnès Duvachat, qui a la gentillesse de venir jusqu'à notre micro. Bonjour Agnès.
Bonjour, merci de m'accueillir.
C'est un plaisir pour RCF. Moi, quand j'entends parler de vous, de qui vous êtes et de ce que vous avez publié déjà, je suis tout émue. Vous êtes à la fois philosophe, historienne et vous aimez les jardins.
Oui, c'est vrai, j'ai une formation en philosophie, puis en histoire de l'art autour de l'art des jardins. Et effectivement, je me passionne depuis une dizaine d'années pour les jardins, ces espaces de nature artificielle, de nature transformée par les hommes, avec toutes les ressources artistiques, techniques, hydrauliques, botaniques à leur disposition, un peu partout dans le monde, et notamment dans la région méditerranéenne, dans le sud de l'Espagne, en Afrique du Nord, en Italie, dans le sud de la France.
Et d'où vous est venu, au départ, cet intérêt pour les jardins? Ça remonte à l'enfance?
Eh bien, pas du tout, non. J'ai grandi à Paris, je suis une véritable citadine. Et cet intérêt pour les jardins, il est venu d'un séjour en Espagne, justement, dans la ville de Grenade, qui renferme ces fabuleux jardins du palais de l'Alhambra et les jardins du Généralif. Et c'est vraiment au cours de mes études, où je séjournais là-bas pour étudier, que j'ai découvert ces jardins, donc de tradition arabe, qui ont été construits au Moyen-Âge, hein, vers le XIIIe, XIVe siècle, en Andalousie. J'ai découvert ces lieux et j'ai été, comme beaucoup d'autres avant moi, complètement charmée, fascinée par ces jardins. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à m'y intéresser.
Alors, j'apprends que vous êtes chercheuse associée actuellement au laboratoire de recherche de l'École nationale supérieure du paysage. Cette école nationale se trouve à Versailles. Et elle est seule dans son genre en France.
Ce fut la première école à former des paysagistes, donc vraiment des concepteurs de jardins, de parcs. Et actuellement, maintenant, il y a 5 écoles en France, donc Versailles, mais il y en a aussi une à Bordeaux, une à Lille, une à Angers et une à Blois. Voilà, et cette école se trouve à côté du château de Versailles, mais dans le lieu historique qui s'appelle le Potager du Roi, qui était en fait l'ancien jardin potager créé par Jean-Baptiste de la Quintigny au XVIIe siècle pour fournir en fruits et légumes la table du roi Louis XIV.
Et à quel moment de votre vie êtes-vous entrée dans cette magnifique école ?
Alors moi, j'y suis entrée pour faire mon doctorat, donc à la fin de mes études supérieures, et pour enseigner l'art des jardins aux étudiants de cette école. Et suite à mon doctorat, je suis restée effectivement chercheuse associée au laboratoire de recherche de cette école.
Votre travail, votre réflexion sur le jardin est nourrie de pensées philosophiques. Vous êtes philosophe, vous avez donc réfléchi à la nature, à ce que l'homme y fait.
Effectivement, ce qui m'intéresse, c'est les différentes manières pour l'homme d'aménager son environnement, comment on va passer finalement graduellement d'un environnement qu'on peut dire naturel ou sauvage à une nature travaillée, transformée, d'abord à des fins vivrières ou à des fins agricoles. C'est ce qu'on a appelé au cours de l'histoire la seconde nature. C'est comme ça que, dès l'Antiquité, Cicéron parler des champs cultivés, de la nature agricole, la seconde nature, par opposition à la première nature qui serait la nature sauvage. Et puis ensuite, à la Renaissance, les philosophes, les humanistes ont forgé le concept de troisième nature, la terza natura, comme disait l'humaniste Jacopo Bonfadio, pour désigner cette fois une nature transformée par l'homme, mais à des fins purement récréatives, purement d'agrément ou de plaisir. C'est ce qui a donné naissance au jardin de plaisance.
Et vous associez une forme d'art. Le mot art revient souvent lorsqu'on vous lit. Qu'est-ce que ça veut dire l'art des jardins?
Oui, parce que je ne suis pas une formation de botaniste, ni même de conceptrice de jardins ou de paysages. Et ce qui m'intéresse, moi, ce sont les tracés, les plans de jardin, les motifs que l'on peut retrouver dans les parterres des jardins. Les parterres, ce sont les espaces découverts du jardin, que l'on va opposer aux espaces couverts qu'on appelle les bosquets. Donc le dessin des jardins, la manière d'arranger les végétaux, la statuaire, tous les éléments bâtis, les escaliers, les pergolas, les fontaines aussi, voilà, tous les éléments ornementaux. C'est ça que j'appelle plutôt l'art des jardins.
Et vous êtes tombée en amour devant ces formes-là lorsqu'elles étaient en Espagne.
Oui, parce qu'en Espagne, notamment dans cette région du sud de l'Espagne, notamment la région de Grenade, qui a pour caractéristique d'avoir voilà, un climat assez aride ou semi-aride, et ben finalement, sur la colline de l'Alhambra, dès le Moyen-Âge, les bâtisseurs arabes sont parvenus à canaliser les eaux qui viennent de la Sierra Nevada, cette montagne qui est au nord de Grenade, donc à faire venir les eaux de la montagne et pour donner naissance à des fontaines, à des jets d'eau croisés le long de au-dessus de canaux. On retrouve ça aussi en Perse. Et donc j'ai été assez fascinée à la fois par ce miracle technologique de profiter finalement, comme disait Théophile Gautier qui voyage en Espagne en 1843, il dit que grâce aux travaux hydrauliques des Arabes, on peut profiter d'un printemps éternel à Grenade. Et puis en même temps, la profusion des fleurs, les parfums, du laurier rose, des grenadiers, du jasmin, des roses, voilà, c'est fascinant.
Et j'ai appris que vous aviez écrit un livre en langue espagnole sur ce sujet.
En fait, c'est un mémoire de recherche qui était écrit en français à l'origine et qui a été traduit en espagnol et qui concernait les récits des voyageurs romantiques en Andalousie au XIXe siècle. Et c'est de là un peu comment a été forgé cet imaginaire aussi autour des jardins d'Espagne, les romantiques.
Par les romantiques.
Avec des descriptions et aussi beaucoup de gravures, beaucoup de peintures, dans lesquelles nous sommes en plein orientalisme, c'est-à-dire les voyageurs ne dessinent pas ce qu'ils ont sous les yeux. Ils vont reconstruire des jardins imaginaires peuplés de jeunes femmes lascives, peuplés de profusion de plantes, alors qu'ils avaient sans doute face à eux des jardins finalement assez classiques, assez géométriques. Parce que l'art du jardin arabe, il est quand même dominé par la géométrie, par la symétrie du tracé.
Je comprends bien maintenant l'apport que représente votre personne dans ce cadre de l'Institut européen des jardins et du paysage qui existe chez nous en Normandie. Parce que là, vous nous apportez du soleil, vous nous apportez des jets d'eau, vous nous apportez un renouveau de l'imaginaire qui est assez loin de notre climat normand. Et pourtant, vous vivez en Normandie.
Oui, mais tout à fait, oui, j'habite en Normandie et j'ai toujours grand plaisir à intervenir à l'Institut européen des jardins et des paysages ou à venir simplement écouter les autres conférenciers qui participent. Et oui, mais c'est vrai, j'habite en Normandie, mais comme souvent finalement, il y a une sorte de tropisme vers d'autres paysages, d'autres latitudes. Et donc plus récemment, j'ai aussi travaillé sur d'autres jardins méridionaux, cette fois du sud de la France, notamment sur la Côte d'Azur, des jardins qui ont été élaborés par un monsieur tout à fait singulier qui s'appelait Ferdinand Bach et qui a vécu au début du XXe siècle.
Alors pour tout dire à nos auditeurs, je tiens entre mes mains ce très beau livre, Agnès Duvachat, Culture et paysage, le jardin méditerranéen de Ferdinand Bach. Ça a été publié aux éditions du Petit Génie, qui d'ailleurs ont changé de nom, qui s'appelle maintenant
les éditions Locus Solus.
Très bien.
Qui sont basées en Bretagne, donc toujours un peu loin de la Méditerranée.
Oui. Alors c'est un très beau livre couvert d'illustrations qui nous présente un paysage, mais surtout un personnage. Alors qui était Ferdinand Bach ?
Oui, alors Ferdinand Bach, il a pour particularité d'abord d'avoir vécu très très longtemps, puisqu'il est né en 1859, à l'époque du Second Empire, et il est décédé en 1952. Donc il a vraiment traversé quasiment deux siècles.
Oui.
Il a commencé une carrière de romancier, d'écrivain, puis de peintre. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que assez tardivement, passé la soixantaine, il se met à créer des jardins. Donc c'était une vocation tardive. Il n'avait aucune formation ni d'architecte, ni d'ingénieur, ni de botaniste, mais il dessinait très bien. Et il s'est mis à dessiner des plans de jardins pour ses amis qui étaient des gens relativement fortunés, qui possédaient de grandes villas sur la Côte d'Azur. Et donc Ferdinand Bach a créé des jardins à Grasse, à Menton, au Cap Martin, dans les années 1920-1930. C'était sans doute des villas somptueuses, avec des jardins en terrasse, un peu à l'italienne, qui s'étageaient sur plusieurs niveaux, avec des jeux d'eau, avec des bosquets, avec, comme vous le voyez sur la couverture du livre, une pergola qui contournait tout le jardin, lui donnant un aspect de cloître. Bach avait séjourné à Assise aussi, et il était assez inspiré par le cloître de Saint-François d'Assise. Et malheureusement, la spéculation immobilière en fait, a fait disparaître la plupart de ces jardins dans les années 60-70. Jardins qui n'étaient pas encore protégés, puisque les premières mesures de protection en France en faveur des jardins historiques ne datent que des années 1980. Et donc voilà, mais il nous reste des archives, des photographies, des dessins que j'ai essayé de publier, de retrouver d'abord et de publier dans ce livre. Ce qui est intéressant dans les créations de Ferdinand Bach, c'est qu'elles ont été élaborées dans les années 1920 sur la Côte d'Azur, avec une volonté de rompre avec l'exotisme importé par les Anglais et par la colonie des hivernants britanniques, ces Anglais fortunés qui venaient passer l'hiver au soleil sur la Côte d'Azur, et qui avaient finalement acclimaté des palmiers, des végétaux qui n'étaient pas du tout indigènes sur le territoire de la Côte d'Azur. Et Bach a voulu, dès les années 1920, revenir aux fondamentaux, si je puis dire, aux racines vraiment du territoire et du paysage méditerranéen, retrouver le cyprès hein, qui avait été acclimaté depuis l'Empire romain en Méditerranée, les agrumes, les oliviers, les lauriers. Et voilà, ça c'est aussi une vision qui maintenant nous paraît assez évidente, mais à cette époque il était un peu seul de son espèce, et une vision très avant-gardiste de la végétation locale.
Donc c'est un livre vraiment très utile pour qu'on puisse connaître un patrimoine qui a disparu.
Voilà.
Mais c'est le propre des jardins, ils sont vraiment toujours éphémères, et ce sont les écrivains qui nous les rendent vivants à nouveau sur le papier. Merci beaucoup d'être cet écrivain, de nous offrir cette lecture. Et puis, on sera toujours heureux de vous rencontrer si vous venez à Bénouville et aussi si vous revenez à notre micro de RCF. Merci Agnès Duvachat d'être venue jusqu'à nous. Au revoir.
Merci beaucoup, au revoir.